Bonsoir à tous. Non, ça marche pas.
Voilà. Eh bien, bonsoir à tous. Nous allons donc pouvoir commencer par l'appel des présents. Madame Elena, Antoine Ancel.
Présent.
Philippe Duc est absent, excusé, représenté par Monsieur Lancel. Stéphanie Chute.
Présente.
Serge Hamelin.
Présent.
Edith Lyon.
Présent.
Dany Farois.
Présent.
Chantal Ognot.
Présent.
Angélique Rapaille.
Présent.
Armand de Maigret.
Présent.
Jules Nouganouga.
Présent.
Fabrice Houllier.
Présent.
Et Fabrice Houllier assumera la lourde tâche de secrétaire de séance aujourd'hui. Nathalie Piocière.
Présent.
Louise Tente Marquez est absent, excusé, représenté par Madame Chute. Valérie Jacqui.
Bonjour, pardon, présent.
Sylvie Poirier.
Présente.
Frédéric Brouillon.
Présent.
Nîmes Cassiger est absente, excusée, représentée par Edith Lyon. Cédric Contant.
Présent.
Susanna Martinet.
Présent.
Mahmoud Gunnar.
Présent.
Anne-Laure de Belleville.
Présent.
Sylvie Galocher.
Présente.
Michel Billou est absent, excusée, représentée par Madame Galocher. Mohamed Kerbache.
Présent.
Guy Bertrand Chikaya.
Présent.
Nathalie Causseron est absente, excusée, représentée par Madame Lagoutte. Clotilde Lagoutte.
Présente.
Émeric Durox est absent, excusé en séance au Conseil régional. Donc nous allons pouvoir démarrer par l'approbation du procès-verbal du dernier Conseil municipal en date du 22 octobre 2021. Nous n'avons pas reçu de remarques. Est-ce qu'il y a des... Oui, Madame Lagoutte. Merci. Nous avons attentivement le procès-verbal. Alors, deux choses ce soir. En page 2, si vous vous souvenez, vous m'aviez dit que seul le numéro SIRET devait être affiché dans les décisions, c'est indiqué au procès-verbal.
Alors, je ne me souviens pas. Vous, ce soir,
du fait du RGPD. Mais je n'ai pas retrouvé le texte, donc si vous pouvez me le transmettre. Parce qu'en fait, il n'y avait plus les adresses des sociétés où vous avez posé la question.
Ah oui, exact, voilà.
J'ai pas retrouvé.
Catherine, vous ne vous souvenez pas?
Pardon.
Au sujet des conventions avec les entreprises, qu'il ne devait y avoir que le numéro de SIRET et pas l'adresse postale suite à des règles RGPD.
Oui.
Est-ce que vous pourriez fournir le texte à Madame Lagoutte qui le demande?
Très bien, parce que dans d'autres communes, ils continuent à le mettre.
C'est vrai, mais oui, tout à fait. Tout comme pour les arrêtés au niveau des agents, on ne met plus non plus les adresses, on n'a que.
Je veux bien le texte de référence, je vous remercie. Alors, autre chose. Important en même temps. Alors, après l'intervention de Madame Galocher.
Quelle page, s'il vous plaît?
Je vais vous dire. En page 14. Concernant la modification du titre de la délibération, donc c'était la délibération sur ce qui concernait la crête. Celle-ci n'a pas été modifiée et tout le débat n'apparaît pas dans le procès verbal de conclusion. Alors qu'on entend M. Lancel dire très bien à Mme Galocher quand elle a fait cette remarque sur la modification du titre, d'ailleurs les explications de M. Lancel n'apparaissent pas. Est intervenu aussi M. de Maigret qui suggérait d'écrire en article 2 Madame le maire et non Madame la maire, comme c'était indiqué, et là cette modification a bien été effectuée. Dans le compte-rendu audio à la minute 53.09, mais je vous le redirai, ça y a pas de souci, vous avez d'ailleurs approuvé les modifications proposées par Madame Galocher et la délibération, à mon avis, n'a pas été modifiée dans ce sens. Donc soit elle a été rectifiée et corrigée, mais le PV ne tient pas compte de la correction, et donc ça n'a pas le reflet de la délibération qui a été prise. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quand même inadmissible, ça fait la deuxième fois que cela arrive, puisqu'on a eu le même souci sur la délibération de l'Église. Et d'ailleurs, comme vous savez, nous avions fait un recours par rapport à la délibération sur l'Église et sur le courrier que nous avons reçu du préfet. Il nous rappelle bien que S'agissant du compte-rendu des séances du Conseil, il doit en effet retracer le contenu des débats et des décisions prises en séance. Et en cas de retranscription inexacte, il est possible en effet de rectifier le procès-verbal, et c'est ce que je demande ce soir, avec l'approbation de l'ensemble des conseillers ici présents. Et donc, la rédaction étant incorrecte, je pense qu'il faut donc modifier cette rédaction. Et je voudrais le faire, s'il vous plaît, vous voyez en préfecture. Alors, la modification n'apparaît pas, alors que vous l'avez approuvée.
Deux remarques. La première, je m'étonne que vous attendiez la tenue du Conseil pour demander les modifications. Je pense que pour un travail plus fluide, à partir du moment où vous les constatez, vous pourriez tout de suite nous en faire part, ce qui nous permet de vérifier et de soumettre directement à notre Assemblée les modifications éventuelles réclamées, si elles sont fondées.
Madame le maire, ça ne sert à rien, cette délégation, je vous l'ai demandé maintes et maintes fois et vous ne l'avez jamais fait. Donc maintenant, j'interviens directement au Conseil, ça ne sert à rien que je vous écrive un
mot. Ça va être beaucoup plus efficace.
Voilà.
Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que je ne suis pas sûre que grand monde ait compris, ce que vous souhaitez qu'on modifie?
Le titre de la délibération n'était pas la même.
Donc, vous souhaiteriez quoi comme titre?
Elle l'a dit, il faudrait peut-être prendre le compte-rendu.
Non, mais on ne va pas prendre le compte-rendu audio ce soir, je vous le dis.
Donc, c'est l'approbation du rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées. Mais ce n'était pas en fait l'évaluation fiscale. En fait, toute la première partie, ce n'est pas nous en fait qui évaluons fiscalement la deuxième phase de l'installation de la plateforme logistique dans la zone de la commune de Mormont. Donc en fait, nous, au conseil municipal de Langy, on a voté l'approbation du rapport. Mais on n'a pas évalué fiscalement la deuxième phase de l'installation. Et donc, vous avez demandé de le modifier et vous aviez accepté lors de ce conseil. Puisqu'on n'évalue pas fiscalement, on approuve seulement le rapport de la CNIL.
Donc, si j'ai bien compris, dans l'objet, au lieu d'écrire « Évaluation fiscale de la deuxième phase de l'installation d'une plateforme logistique dans la zone d'activité de la commune de Mormant » et ensuite « Approbation du rapport de la CNIL », on enlève la première phrase. C'est ça que vous demandez?
Tout à fait.
Et c'est validé. Bien.
Voilà.
Il y avait également, je rebondis dessus, il y avait également dans le corps des considérants. Voilà. Pardon. Dans le corps des considérants, il avait été indiqué qu'il fallait mettre que le rapport constitue une évaluation du produit fiscal. C'était marqué constitue une évaluation du produit fiscal et j'avais demandé à l'époque que l'on mette évalue le produit fiscal.
Merci de cette précision.
Mais là, ça n'apparaît pas dans le compte rendu. C'était la notice.
Dans le compte rendu audio.
Qui dit dans le compte rendu?
Le compte rendu écrit est bien. Sauf que après, lorsque vous déclinez, lorsque le service décline dans le rapport la délibération et sa notice explicative, on ne tient pas compte des précisions qui ont été apportées.
Donc je soumets au vote le compte rendu avec les modifications telles que précisées par Madame Lagoutte.
Mais pour ces raisons, on votera contre le compte rendu puisqu'il ne reflète pas des modifications.
Bah si, puisqu'on vient d'enterrer les modifications.
Là, on approuve le procès verbal d'aujourd'hui. On verra le prochain.
Donc, je soumets au vote qui s'oppose à ce compte-rendu. Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, le point suivant, pour information, vous avez donc reçu les décisions prises dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT, de la décision numéro 195 à la décision 205. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Allez-y, Madame Galoucher.
Merci, Madame le maire. Je vais rapprocher le micro. Concernant la décision, alors pas spécialement la décision 198 par elle-même, on ne pose aucun souci, mais c'est le contrat de bail qui est joint à cette décision. Il s'agit du bail d'habitation à Madame le maire de Francine. juste une petite remarque. Vous faites, elle a demandé un renouvellement, hein, qui va de soi, puisqu'elle est enseignante, et je suppose qu'elle va aller jusqu'à la fin de sa retraite, enfin jusqu'à la fin de son emploi. Donc elle a droit effectivement à ce logement, sauf que dans le contrat de bail, on argumente sur la loi de 1989 comme elle se voit, donc la loi CIO. Et considérant cette loi, bien entendu, le bail par lui-même doit être un bail obligatoirement de 6 ans, puisque la commune étant une collectivité territoriale et donc une personne morale, on ne peut pas faire des baux de 3 ans. Et là, dans ce renouvellement de bail, on ne parle qu'un renouvellement pour une durée d'un an. Donc en fait, il s'agit là du système dérogatoire, qui est tout à fait plausible et possible. Un an, c'est faisable, mais on part dans des conventions à titre précaire et non pas dans un bail d'habitation de 6 ans. Et de toute façon, pas dans un bail d'habitation d'un an.
Alors, juste une précision. Madame Merle, effectivement, est enseignante. Elle n'est plus pas institutrice. Mmh. Elle est professeure des écoles.
Oui, bien entendu, je connais bien le système.
Oui, mais justement, donc si vous le connaissez bien, vous savez très bien que les professeurs des écoles n'ont plus à être logés, à bénéficier d'un logement de pension, comme c'était le cas pour leur corps d'origine. Donc il s'agit simplement d'un logement dont est propriétaire la commune, et la commune peut loger qui elle souhaite.
Tout à fait.
Effectivement, ce logement, on y accède par la cour de l'école. Donc, c'était une enseignante, il n'y a aucun souci là-dessus. Sur la durée du bail, Mathieu, vous avez...
Alors, s'agissant du logement de Madame Maire, ici, on n'est pas sur un bail d'habitation de droit commun, droit code civil, puisqu'on est sur l'ensemble de l'école, donc on est sur la domanialité publique de la collectivité.
Alors je vous arrête, monsieur Henty, tout de suite, puisque les biens font partie des immeubles de rapport de la commune, qu'ils rentrent par, quand on y rentre par la cour de l'école ou pas, ça n'a absolument rien à voir.
Ils n'ont jamais été déclassés, en fait.
Comment ça, ils n'ont jamais été déclassés, bien sûr que si. Non, ils font partie, non, je vous assure,
tant qu'on n'aura pas le document de déclassement, ils seront toujours considérés comme...
Ils font partie au budget et à l'inventaire de la trésorerie, hein, vous regardez.
Ils font une délibération du conseil municipal qui déclasse officiellement ces biens-là. Ils n'ont jamais été faits dans l'enceinte de l'école de Noas. Ou si vous avez la délibération de déclassement...
Là, je n'ai pas sous la main la délibération de déclassement, mais comme vous dites vous-même, on n'est plus en droit commun, on est plus sous l'égide de la loi de 89. Donc, à plus forte raison, il faut faire une convention précaire. Là, non. Et non, dans le contrat de bail, vous parlez de la loi de 89.
Sur le CG3B.
À double tranche. Mais peu importe, de toute façon, je suppose que Mme Blair va partir dans un an, c'est pas de souci, mais c'est juste pour vous indiquer que vous ne pouvez pas, dans un bail argumenté, et vous positionner sur la loi de 89, qui concerne donc par conséquent les baux de droit commun, et ensuite dire que vous êtes dans un système dérogatoire. C'est pas possible, ça.
Par ailleurs, vous le savez, l'école Noas et les logements nécessitent des travaux importants. Donc. Ça explique aussi pour partie la durée du bail. D'autres questions ? Madame Lagoutte.
Alors, une question plus générale, donc, quel ne fut pas mon étonnement lorsque je me suis aperçue que la liste des décisions qui nous a été fournie par voie papier ou par voie dématérialisée n'était pas complète. En effet, certaines décisions ne sont pas inscrites. Je m'en suis aperçue en fait lorsque j'ai demandé à consulter certaines conventions que vos services m'ont d'ailleurs envoyées très rapidement et je les en remercie. Décisions qui n'étaient pas inscrites, comme je dis dans mon premier propos, comme par exemple la 212, la 215, la 228, elles n'apparaissent pas dans la liste. Alors que bien entendu la loi l'impose pour la préparation du conseil. Donc, je me suis demandé si vous vouliez dissimuler certaines choses. Je n'espère pas. Donc je voudrais savoir si la prochaine fois on peut avoir la liste des décisions vraiment complète, et comme la liste des conventions. Comme ça, on a au moins le titre de chaque décision et de chaque convention. Voilà, ça c'est un premier point. Alors, je vais revenir aussi juste sur deux décisions. La 202 et la 203. Donc il s'agit de deux mises à disposition du bassin ludique, du centre aquatique, à deux associations donc, qui ne font pas partie de la communauté de communes ni du site. Alors, dans une des décisions, vous indiquez la rémunération de la mise à disposition du bassin en fonction du tarif que nous avions voté et mis en application depuis septembre 2021. Donc, dans la première décision, la 202, vous le mettez à disposition, vous mettez à disposition d'un bassin sans surveillance contre la rémunération de 41,67 €, ce qui correspond bien à la délibération qui a été prise. Par contre, il y a une première séance d'1h30, donc je voulais savoir si elle allait être facturée en conséquence. Par contre, à la 203, vous prenez la décision de mettre pour le même prix le bassin, alors que cette fois-ci, il y a la présence d'un maître nageur pressenti pour la surveillance. Donc je voulais savoir, comme c'est le même prix avec le maître nageur, si celui-ci était mis à disposition à titre gracieux, puisque dans les tarifs de septembre 2021, il nous semblait qu'il y avait aussi un tarif pour la mise en place d'un maître nageur. Voilà. Donc, voilà ma question. Parce qu'en fait, il y a une décision où il y a un maître nageur et l'autre pas. Et c'est le même prix.
Alors, pour votre information, donc, ces associations sont des associations qui... propose des activités sportives à des enfants porteurs de handicap.
Oui, voilà. J'ai avec vous.
Non, mais le public n'est pas forcément au courant.
Oui, bien sûr. Vous avez raison.
Voilà. Et ces conventions n'ont pas encore été signées par les parties avec lesquelles on conventionne. Donc, vous avez bien fait de nous interpeller. Nous allons vérifier.
Voilà. Juste une question. Ce sera tout. Merci.
Nous allons pouvoir démarrer nos délibérations à proprement parler. Et la première, qui est la décision modificative numéro 3 du budget communal. Je laisse la parole à M. Lancet.
Bien, bonsoir à tous. Donc, délibération numéro 1. Elle correspond au vote de la décision modificative numéro 3 du maintien du budget communal. Vous savez, on a pris un budget, il y a différentes modifications qui ont lieu durant l'année et celle-ci porte sur différentes dépenses, des réajustements qu'on peut faire en fin d'année sur différents budgets. Donc, concernant la décision modificative numéro 3, la section de fonctionnement est à zéro. Donc, les dépenses, on a un chapitre 011 à charge à caractère général pour 55 000 euros, et qui a en regard le chapitre 022 une dépense imprévue pour moins 55 000 euros. En section d'investissement, on a 5 000 euros. Pour les recettes, en chapitre 024, on a le produit de cession, donc pour les 5 000 euros que l'on vient préalablement d'indiquer. Et en dépenses, chapitre 020, dépense imprévue pour 200 000 euros. Chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 355 000. Et le chapitre 21, en immobilisation corporelle pour moins 550 000 euros. Il s'agit donc de voter cette délibération de réajustement que nous avons pu voir lors de la commission des finances vendredi dernier. Avez-vous des questions ? Madame Galochet.
Merci, monsieur Estelle. Alors, Madame le maire, on va faire une intention de vote hein, pour l'ensemble des décisions modificatives. Madame le maire, nous voterons contre pour l'ensemble des décisions modificatives qui nous sont présentées ce soir. En effet, même si la collectivité vote le budget au chapitre, il n'en reste pas moins, ne serait-ce que dans le seul souci de transparence, non seulement envers les élus, mais surtout envers les logiciens, que toute délibération ayant trait des modifications des crédits budgétaires soit précédée d'explications détaillées et déclinées aux imputations comptables effectivement concernées. et plus précisément qui concerne la DM numéro 1 de ce soir, relative au budget principal, nous voterons doublement contre. En examinant la maquette budgétaire jointe au dossier du Conseil, celle-ci n'était malheureusement pas présente à la Commission des Finances, on s'aperçoit que les mouvements du chapitre 21, immobilisation corporelle, sont totalement inexpliqués. En fait, au Conseil du 30 septembre, l'ADM intégrant l'ouverture des crédits relatifs aux 5 millions de la première tranche de l'emprunt flèche à notre grande stupeur, des dépenses au 21-11 terrain nu. Je vous rappelle que jamais le Conseil n'avait été alors averti de possible achat de terrain nu, et d'autant plus, encore une fois, que ce programme ne fait pas partie de vos fiches actions. Aujourd'hui, voire page 20 de la maquette budgétaire, vous retirez 2 500 000 des terrains nus, soit dit en passant, il en reste encore autant, montant que vous redescendez pour 355 000 euros en 2031 frais d'études, pour 200 000 en 2021-534 réseaux d'électrification, soit, puisque cela résulte de vos fiches actions. Mais surtout, pour 1 600 000 en 2031-32 immeubles de rapport et pour 150 000 euros en 2021-15 terrains bâtis. Or, ces deux dernières ouvertures de crédit ne concernent encore une fois aucune de vos fiches actions. Donc force est de nous poser des questions sur vos intentions. Quelles acquisitions comptez-vous faire nécessitant de telles inscriptions budgétaires? Et aucune délibération ne vous autorisant à procéder à de telles acquisitions n'ayant été présentées jusqu'à ce soir en Conseil, à quoi vont-elles servir réellement puisque vous ne pourrez pas les faire figurer en restes à réaliser? Le manque de transparence continue évidemment pour les autres décisions modificatives, activités culturelles, centres aquatiques, eau potable et assainissement. Je ne manque pas dans les délibérations, mais au moins sur les notices explicatives. Et donc pour cette raison, nous voterons contre l'ensemble de ces décisions. Merci.
Catherine, voulez-vous nous donner deux, trois explications techniques, s'il vous plaît, de nos bascules ?
Bien sûr.
Merci.
Bonsoir à tous. Donc, comme effectivement vous l'avez relevé lors de la dernière DM, les crédits avaient été affectés au compte 21-11 achat de terrain, puisqu'alors le programme d'investissement était un projet naissant. Et que nous n'avions pas, à ce moment-là, les projets qui émergent aujourd'hui et qui feront l'objet d'une présentation beaucoup plus précise lors du rapport d'orientation budgétaire 2022. Alors pourquoi, effectivement, déplacer des crédits du 21-11 au 21-15? Parce que sur les projets qui vont émerger et qui vont vous être présentés lors du ROB 2022, il y a effectivement des projets d'acquisition de biens bâtis et que pour pouvoir dégager une partie de cette somme sur le quart investissement, il faut l'inscrire avant en DM. Aujourd'hui, aucune promesse n'est signée. Ce sont des projets. Ce sont des projets qui rentrent dans le cadre du plan du programme pluriannuel de la commune de Nangy. Ce sont des projets qui vont s'insérer dans le grand projet PVD, Petite Ville de Demain, qui vous sera également présenté lors de la séance du ROB. Et voilà pourquoi, effectivement, il y a un virement, entre guillemets, du 21-11 au 21-15, parce que va en découler derrière tout un tas de projets d'acquisition, mais qui aujourd'hui ne sont que des projets, rien n'est signé. Voilà, c'est les prémices de PVD. PVD commence, on vient tout juste d'avoir la chance d'être choisi pour ce projet. Ça s'anticipe, ça se met en place. Et comme le budget ne sera pas voté avant mars, ou peut-être février si on est prêt avant, on ne sait pas. Il faut quand même anticiper sur cette partie où il risque d'y avoir des négociations en tout début d'année. Donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, nous avons déplacé des crédits du 21-11 sur le 21-15.
Sur le 21-32, vous voulez dire, parce que sur le
21-32, parce que dans ces projets, de bâtiments bâtis, il y a effectivement des immeubles de rapport. Pourrions-nous avoir, du coup, savoir quels sont ces projets? Parce que là, on est en train de voter en 2021 une décision modificative, donc on est en droit de savoir quel est le projet. Alors, donnez-moi de la transparence, s'il vous plaît, Madame le maire. Madame le maire, bien entendu, que je m'adresse. On vote aujourd'hui ces modifications de budget. Enfin, j'imagine, bon, je pense que tout le monde est au courant sauf nous. On aimerait bien savoir quels sont ces projets parce qu'on, voilà, au moins qu'on y ait une transparence sur, sur vos projets.
Nous sommes en négociation avec les propriétaires. Nous ne savons pas encore quel va être le résultat de ces négociations. En fonction des résultats du plan A, on peut se tourner vers des plans B. Ce qui est important, c'est que nous ayons les provisions.
Pardon, je vais prendre la main, parce que on a fait une partie technique, c'est pour ça que je préférais que ce soit Mme Lagré qui parle avec Mme Galochine, qui connaît bien le 21-32 ou 21-15, ou des choses comme ça. Effectivement, on a eu la chance d'avoir des crédits, puisque les banques nous suivent. L'argent, on ne prend pas, on ne le vole pas, on ne le déplace pas. Aujourd'hui, on ne fait que si on le déplace uniquement dans un but d'investissement. Comme l'a dit Madame le maire, aujourd'hui, il y a des propriétaires avec qui nous sommes en négociation, on ne peut pas forcément beaucoup plus communiquer. On peut être amené aussi à acheter des bâtiments qui sont aujourd'hui des dents creuses ou des verrues en centre-ville. Je citerai pas l'hôtel du Dauphin que vous avez préempté en 2003 et pour lequel aujourd'hui on a quand même, on va revenir dessus tout à l'heure sur une question diverse. Ça, pour pouvoir l'acheter, il faut bien avoir des budgets disponibles. Ce n'est ni plus ni moins que ça ce qui est fait, c'est-à-dire les transferts de montants sur des lignes dédiées pour pouvoir faire les investissements nécessaires au projet PVD. Je remercie Laurent Salmon qui est présent. Comme quoi, c'est un besoin aujourd'hui. On a un besoin, on met de l'argent, on le met de côté et on se permet de pouvoir acheter s'il y a des opérations qui sont opportunes pour la ville.
Oui, je comprends ce que vous me dites, Monsieur Lancel, mais n'empêche qu'on n'a aucune information.
Donc nous ne vous donnerons pas les adresses des bâtiments pour lesquels nous sommes en discussion. Mais ce qu'on on vous explique, il y a des bâtiments désaffectés dans la commune, désaffectés, dégradés, qui ternissent l'image de la ville. Tout l'enjeu pour nous, vous le savez, c'est l'attractivité, et particulièrement l'attractivité du centre-ville de Nangy. Donc nous travaillons pour que la ville puisse proposer des solutions pour la réhabilitation de bâtiments et pour éviter de laisser des lieux dégradés, inhabités, inoccupés, sans aucune activité en cœur de ville. Voilà.
Bon, Madame Galochet vous l'a dit de toute façon dans le rapport.
Donc, qui s'oppose à ce projet de délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. La DL numéro 3 consacrée au budget des activités culturelles. La deuxième délibération qui s'appelle décision modificative numéro 3.
C'est la décision numéro 2, la décision modificative numéro 3.
C'est ça.
Donc là, il s'agit du vote de la décision effectivement modificative numéro 3 pour le budget des activités culturelles qui est proposé au conseil municipal de Vérogard entériner cette décision concernant le fonctionnement de la base sujet. Ça correspond à une dépense sur le chapitre 011 charges à caractère général pour moins de 2000 euros. Avec le chapitre 67, une annulation de titres sur exercice antérieur de 2000 euros. Donc je vous invite, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, je vous remercie. Délibération numéro 3, concernant le budget du centre aquatique, objet vote de la décision modificative concernant le budget aqualude. La section de fonctionnement, donc on est à zéro, les dépenses de chapitre 011, charges à caractère général pour 30 000 euros. Chapitre 012, charges de personnel pour moins 36 000, charges 67, annulation de titre sur exercice antérieur pour 6 000 euros. Section d'investissement, 0,07 centimes, les dépenses, chapitre 21, immobilisation corporelle, 0,07. Chapitre 021, virement de la section de fonctionnement à 0,07. Même chose, on l'a évoqué en commission des finances, les problématiques d'Arvigny peut-être, qui bloquaient les systèmes. Avez-vous des questions?
question. Problématique d'arrondi, semble-t-il, technique, n'est-ce pas, Mme Lagré?
Oui,
les flux, les reprises de flux.
Sur l'investissement pour les 0,07.
7 centimes. Avez-vous des questions sur cette délibération?
Moi, j'en ai une petite. Il y a donc sur quel... On a des charges de personnel en dépenses, moins de 36 000 euros. Est-ce que vous pouvez me donner une précision par rapport à ça?
Oui, là, quand la piscine est fermée, nous pouvons
mettre un appel à la maturité.
Oui.
Quand la piscine est fermée, pour cause de Covid, forcément, on n'a pas besoin de faire appel à des personnels supplémentaires.
C'est une régularisation,
voilà. Donc forcément, il y a moins de dépenses de personnel.
Les personnels, pendant la période de Covid, n'étaient pas remplacés dans d'autres services?
Quand la piscine, elle est fermée, les personnels titulaires, ils sont toujours là, ils sont toujours rémunérés. Et pour pallier le reste, une année ordinaire, quand il y a des personnels titulaires qui sont absents, à cause de maladies ou autres, ils doivent être remplacés. Donc ce qui augmente les charges de personnel. Quand la piscine elle est fermée pour cause de Covid, on n'a pas besoin de faire appel à du personnel supplémentaire. Donc, au global, sur l'année, il y a moins besoin de renfort, donc il y a moins de charges de personnel, puisque la piscine est fermée.
Mais tu as fermé combien de jours la piscine en 2021 par rapport à 2020, parce que c'était sur l'année 2020?
Un trimestre.
Un trimestre entier?
Quasiment.
Non, dans 2 heures.
Alors, il y a également des personnels qui... des départs. Et donc, des départs de titulaires, des titulaires remplacés par des prestataires. Et les prestataires n'apparaissent pas sur cette ligne-là.
C'est ça?
Oui, c'est ça. Le temps de recruter.
Chose,
ça. Madame,
c'est notre explication. Oui. Donc, un prestataire, c'est-à-dire que vous faites appel à un prestataire, c'est ça? Mais il n'apparaît plus dans les charges de personnes.
C'est ça.
C'est ça.
Et pourquoi vous n'avez pas embauché?
Parce que vous croyez que du jour au lendemain, comme ça, on trouve un maître nageur pour remplacer une absence?
Et le prestataire est toujours en cours?
Pardon?
Vous n'avez toujours pas trouvé un...
Ben si, il y a un directeur, il y a des maîtres nageurs, l'équipe elle est là. Mais quand il y a, quand la structure doit faire face au pied levé à des absences non prévues et non prévisibles de personnel, la seule solution pour maintenir la structure ouverte, c'est de faire appel à des prestataires. Il y a des sociétés ou des... non, Madame Lagoutte, du jour pour le lendemain, ça n'est pas un choix. On ne recrute pas un maître nageur du jour au lendemain. On ne peut que trouver un maître nageur qui soit prestataire. Et qui, c'est son activité professionnelle. Il fait des remplacements dans une structure ou dans une autre. La sécurité n'est pas un choix, Madame Lagoutte.
Je n'ai pas parlé de sécurité.
Mais moi, je vous en parle. Donc, nous soumettons cette DM au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision modificative numéro 2, quatrième délibération, consacrée au budget au total.
Merci. Donc, Madame Lumière vient de donner le titre. Concernant la section de fonctionnement, 2350,29 € pour les recettes en chapitre 70. La vente de produits fabriqués, c'est 495,72 €. Le chapitre 76, les produits financiers pour 1854,57 €. Les dépenses, chapitre 011, charges à caractère général pour au moins 15 000 euros. Charges en revenus, charges personnelles pour 15 247,86 €. Charges financières pour 2102,43 €. En section d'investissement, nous sommes à 0. Les dépenses, chapitre 040, opérations d'ordre de transfert entre sections pour 2551,29 €. A été constaté lors de la saisie du BP 2021 du compte 1391 qui ne s'est pas fait le temps d'opérations d'ordre. Chapitre 13, pension d'investissement pour le même montant gagné, moins 20 551,29 €. Idem sur le BP 2021, le compte 131 a été crédité au lieu du 13,91 €. d'agglomération eau potable. Je peux la mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Décision numéro, délibération numéro 5, concernant le budget assainissement. On vote la décision modificative seconde de mise en place du budget assainissement. Donc en section de fonctionnement, 35 200 euros. On a en recette le chapitre 0, 42 euros de transfert entre sections pour 35 200 euros. On dépense 0 pour charge de caractère général pour 16 800 euros. Chapitre 022, dépenses imprévues pour moins 1 000 euros. Chapitre 042, opération d'ordre entre sections pour 72 000 euros. En section d'investissement, 77 900 euros. En recette, chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections pour 72 000 euros. Chapitre 27, autre immobilisation financière pour 5 900 euros. Les dépenses, le chapitre 040, opération d'ordre de transfert entre sections pour 35 200 euros. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour 42 700 euros. Y a-t-il des questions sur l'assainissement ? Pas de questions ? Je peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Je vous remercie. Décision numéro, délibération numéro 6, le quart investissement du budget communal. Alors, l'autorisation concerne l'autorisation d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement des exercices 2021 dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, budget principal. Le Code général des collectivités territoriales et l'instruction budgétaire et comptable 14 prévoit la possibilité, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, la possibilité pour l'exécutif de la collectivité territoriale de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente jusqu'à l'adoption de ce budget. Et non pas de mandater les dépenses afférentes au remboursement capital et d'annuité de la dette prenant à échéance avant le vote du budget. En outre, jusqu'à l'adoption du budget jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. La limite sera donc de 25% des investissements inscrits au budget 2020, du budget 20-201, budget primitif puis décision modificative 2021, hors reste à réaliser 2020 et hors chapitre 001, 042, 10 et 16. Soit 7 815 818,45, le quart qui représente 1 253 954,61 €. Les autorisations de dépenses pour le début de l'année 2022 sont réparties comme suit. Vous avez en partie une réponse à vos questions un peu tout à l'heure. Chapitre 20, l'immobilisation incorporelle pour 167 900,61 €. En 202, les frais liés à la rédaction de documents d'urbanisme pour 750 €. Les frais d'études en 2031 pour 147 150,61 €. En 2051, les concessions de droits similaires pour 20 000 €. En chapitre 21, immobilisation corporelle pour 1 786 054 €. En 21, 11, terrain nu 625 000. En 21-15, terrain bâti 37 500. 21-21, plan d'Airbus pour 1 812,50 €. 21-28, les autres avancements et aménagements pour 34 487,50 €. En 21-312, bâtiments scolaires pour 36 500 €. En 21-313, bâtiments publics pour 90 137,50 €. En 21-32, immeuble de rapport pour 400 000 €. En 21-35, l'installation générale et avancement pour 27 362,50 €. 21-51, réseau de voirie pour 90 000 €. En 21-52, l'installation de voirie pour 104 750 €. En 21-534, réseau d'électrification pour 80 824,50 €. En 21-58, eau de matériel et outillage pour 139 577,75 €. Avez-vous des questions ?
Non, juste une observation, si vous voulez bien.
Oui, vous voulez bien.
Voilà, concernant ces trois délibérations relatives aux autorisations prébudgétaires 2022, nous nous abstiendrons.
D'accord. Donc, soit un total de 1 953 954. Vous abstiendrez. Alors, pour le public, la ville avait un budget en 2021 qui s'élevait à environ 8 millions d'euros. La loi nous autorise à pouvoir engager dès maintenant, à partir du 1er janvier 2022, le quart de ce montant pour pouvoir fonctionner jusqu'au vote définitif du budget, ce qui représente environ 2 millions. Je vais pouvoir mettre au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Je vous remercie.
Délibération numéro 7. L'autorisation, c'est la même chose, mais ça concerne les crédits ouverts sur le budget au total. C'est l'assainissement. Donc, sur les mêmes textes que l'on applique, hein, c'est la même chose. Là, on avait un budget de 839 299,26 €, 25%. Ça nous donne une capacité à faire de 209 824,81 €. On répartit comme suit les dépenses pour le début de l'année 2022 en chapitre 020, immobilisation incorporelle pour 18 500 €. Dépenses imprévues, 18 500 € en termes d'investissement. Chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 22 902,64 €. En 203, les frais d'études pour 22 902,64 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle pour 168 422,17 €. Décomposé en deux lignes, de 21,56 € sur matériel spécifique d'exploitation pour 129 000 €. En 21,88 €, l'autre installation, matériel d'outillage et technique pour 39 422,17 €. Donc, je vous propose au conseil municipal de délibéré sur ce montant de 209 824,81 €. Avez-vous des questions? La question, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? L'assainissement de manière générale aussi. La même chose, on avait un budget de 387 022,47 €, le quart représente 96 755,62 €. On répartit le montant pour le début de l'année 2022 de la sorte en chapitre 20, immobilisation incorporelle pour 2 500 €, c'est-à-dire qu'en 23, en frais d'études, 2 500 €. Chapitre 21, immobilisation corporelle, 94 255,62 €. Décomposé en 21,56 € matériel spécifique d'exploitation, 55 877,20 €. En 21,58 € autres installations matérielles et outillage technique pour 28 378,42 €. En 21,88 € autres immobilisation corporelle pour 10 000 €. Total 96 755,62 €. Et vous des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Abstention. Qui est contre? D'accord. Merci. Point numéro 9, modification du règlement.
Pardon. Je voudrais juste en profiter pour faire une information. Les travaux que vous voyez, puisque vous avez parlé du budget assainissement, les travaux que vous voyez dans le parc actuellement sont les travaux pour relier la mairie au tout à l'égout, puisque le bâtiment de la mairie n'était pas jusqu'à présent relié au tout à l'égout. Voilà.
Un budget de...
J'ai 90 millions, c'est ça, environ 85 000, quelque chose. Pour donner un peu un ordre d'idée, les toilettes du sous-sol étaient reliées directement sur la gouttière. Donc, c'est...
Ça faisait partie d'une tranche d'assainissement aussi, comme d'ailleurs le restant de l'assainissement du parc pour les fonds. Ça avait été envisagé.
La délibération suivante concerne la modification du règlement intérieur du conseil municipal. La modification la plus importante est l'adaptation du règlement à la nouveauté qui va intervenir en 2022, et qui est l'utilisation de tablettes numériques en remplacement des éditions papier. Donc la première séance du conseil municipal, on devrait être avec une doublette, papier et numérique, et l'objectif étant ensuite de passer au 100% numérique. Donc c'est pour ça que vous avez à la fois le règlement intérieur modifié, donc qui a été étudié en commission municipale en présence de M. Bidou qui était là. Et puis vous avez également joint la convention de mise à disposition des matériels, donc des tablettes numériques, aux membres du conseil municipal. Il y a une application dédiée, Fast Élu, qui sera donc utilisée l'ensemble des délibérations apparaîtront. L'application permet également de prendre des notes, d'enregistrer les délibérations si on souhaite en conserver sur son propre outil une version numérique. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, Madame Lagoutte?
Oui, une petite question. Déjà, on vous remercie d'avoir modifié la date de la commission, parce qu'il y avait une réunion. On vous remercie. Apparemment, c'est effectueux. J'ai juste une toute petite question, parce que du coup, M. Bidou l'a relu, c'était lui qui était en commission. Je voulais juste savoir, en page 5, à la fin de la page 5, donc, il est indiqué, sont jointes également à cet envoi la liste des décisions. Donc, on parle bien de la liste, et bien sûr, on les demandera si on veut les voir, ça on a bien compris. Mais est-ce qu'on peut mettre les décisions et les conventions? Je parle de la liste, bien sûr, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de choses de barrer sur ce petit truc, et finalement, c'est là un petit oubli, parce que normalement, on peut avoir la liste des conventions comme on l'a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut rajouter la liste?
Le code prévoit que seules les décisions soient rapportées au conseil municipal.
Il faut toujours aller au-delà du code. Alors, je vous explique pourquoi. Hein, parce que, comme vous le savez, d'ailleurs, Laura, notre agent, nous l'avait dit, maintenant, en effet, à chaque décision, doit se joindre la convention. Mais concernant les conventions de renouvellement, par exemple, il n'y a pas de décision forcément à prendre. Donc, ça permet de voir aussi les conventions de renouvellement, etc. Donc, je pense que ça serait pas mal pour la liste des conventions et la liste des décisions. De toute façon, on ne va pas toutes les demander. On demande celles qui nous concernent ou qui nous questionnent. Ça fait une transparence
importante. C'est au-delà de la transparence, puisqu'on va au-delà de ce que nous impose le code.
Vous signez les conventions, c'est aussi pour le conseil municipal. On est la liste. On l'a toujours eu depuis votre élection, madame Boutier, la liste. Donc je vois pas ce que ça change. Un règlement, c'est fait aussi pour continuer les choses qui vont bien.
J'acquiesce à votre proposition.
Je vous remercie.
Donc je vous propose de noter, sont jointes également à cet envoi, la liste des décisions et la liste des conventions.
Merci à vous.
D'autres remarques, Madame Lagoutte? Donc, je soumets à votre vote ce nouveau règlement intérieur du conseil municipal. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point suivant, je vais donner la parole à Madame Schutt.
Ah, pardon, désignation, j'étais sur une autre, excusez-moi. Oui, c'est la MAPA, madame. Chute. C'est pour ça que. Puisqu'il faut nommer un. Vous voulez que je le fasse, oui, madame Chute.
Alors, désignation d'un membre suppléant de la commission des marchés en procédure adaptée. Par courrier, madame Mousset, deuxième adjointe au maire, a notifié à monsieur le préfet de Seine-et-Marne sa volonté de démissionner de ses fonctions d'adjoint au maire et de conseillère municipale. Le préfet de Seine-et-Marne a accepté la démission de cette dernière. Madame Mousset étant membre suppléante de la commune de Nangy au sein de la commission des marchés à procédure adaptée, il convient de nommer un nouveau membre suppléant au sein de cette commission. Le vote a lieu au bulletin secret, lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination, sauf si le Conseil en décide autrement à l'unanimité de ses membres ou lorsqu'une seule candidature est déposée pour ce poste. Il est ainsi proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation d'un nouveau membre suppléant au sein de la commission MAPA.
Donc c'est M. Philippe Duc que nous proposons en tant que membre suppléant.
Vous
ne m'entendez plus ?
Oui. M. Philippe Duc, que nous proposons en tant que membre suppléant de la MAPA. Madame Lagoutte.
Oui, juste pour vous dire qu'on ne va pas participer au vote, il s'agit de. Candidat, donc pour participer au vote.
Voilà. C'est noté.
Je vous remercie.
Donc, qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Et donc, si ce n'est pas, qui ne prennent pas part au vote. Pour le point suivant, je vais donner la parole à M. Contant.
Les communes de Maisonbouge et Longueville sont actuellement membres du CICPON. Suite à la modification des intercommunalités, les dites communes sont désormais membres de la communauté de communes du Provinois. Et de ce fait, elles ne nécessitent plus le besoin d'être membres du CICPON. Par délibération numéro 14-2021 du 14 juin 2021, la commune de Maisonbouge a sollicité son retrait du CICPON à compter du 1er janvier 2022. Par délibération numéro 2021-0028 du 23 septembre 2021, la commune de Longueville a sollicité son retrait du CICPON à compter du 1er janvier 2022. Il est donc demandé au conseil municipal de donner un avis sur le retrait des communes de Maisonbouge et de Longueville.
Au vote, puisque vu qu'on ne fait pas partie du CICPON et qu'on n'a pas pu débattre de ça, on ne participera pas au vote.
Excusez-moi, madame, il n'y a pas de débat, en fait, c'est simplement eux qui décident de sortir, comme ça s'est passé à l'époque pour Pringy, pour Prince. Voilà, donc il n'y a pas de débat.
Vous étiez à l'époque, vous êtes parti du CICPON.
Je ne sais pas, je ne sais pas vous répondre.
Donc, qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? 6 qui ne prennent pas part au vote.
On comprend que la commune de Longueville, à côté de Provins, a forcément envie de continuer à venir à Longueville.
Pour la délibération numéro 12, je vais donner la parole à madame Lyon.
Alors, signature du coup.
convention avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale de cinéma pour la mise en œuvre du dispositif petit déjeuner à l'école maternelle Château du Château. Dans le cadre de la stratégie interministérielle de prévention et de lutte contre la pauvreté 2018-2022, l'éducation nationale reconduit le dispositif des petits déjeuners dans les écoles volontaires REP et REP+, des quartiers de la politique de la ville et des territoires ruraux fragiles. Les services de la DSDEN 77 ont contacté la commune de Nangis afin de proposer de participer à ce dispositif. Petit déjeuner à l'école pour les écoles maternelles et élémentaires de la commune entre mars et juin 2021. Ce dispositif doit participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité aux apprentissages scolaires. Un volet éducatif accompagne cette distribution afin d'apporter aux élèves une éducation à l'alimentation permettant de développer un projet pédagogique et éducatif. À l'automne 2019, une phase expérimentale a été proposée à quatre communes, Melun, Lemay, Nemours, Nangis, en ciblant principalement les élèves de grande section de maternelle à raison de 2 à 3 petits déjeuners hebdomadaires pendant 4 à 6 semaines selon le souhait des équipes pédagogiques et communales. Plus de 1200 élèves ont ainsi pu bénéficier de cette opération. Entre octobre 2020 et janvier 2021, l'opération a pu être conduite dans 18 écoles maternelles et élémentaires relevant de l'éducation prioritaire de la grande ruralité ou implantée en QPV. Près de 10 000 petits déjeuners ont été ainsi distribués à plus de 1300 élèves. Pour cette deuxième phase, les objectifs éducatifs ont été rappelés. Les écoles souhaitant faire bénéficier leurs élèves de cette mesure ont dû rédiger un projet pédagogique soumis à la validation de l'IEN et de la DAASEN. De mars à juin 2021, reconduction de l'opération pour toutes les écoles des secteurs éligibles, QPD, REP et REP+, grande ruralité, TEP. Cette opération est de nouveau reconduite pour l'année scolaire 2021 à 2022. L'éducation à la santé et à la parentalité demeurent les objectifs essentiels. Le dispositif peut également servir de levier pour le développement durable, circuit court, produits bio, les liens avec les entreprises et artisans locaux, l'apprentissage des fondamentaux, la découverte d'autres cultures et du corps humain, l'éducation artistique et culturelle, les projets interdegrés, voire avec des établissements du secondaire. Les publics ciblés, classes ou écoles, voire réseau d'écoles, les durées, nombre de petits déjeuners hebdomadaires et nombre de semaines, les modalités sont à définir par les équipes pédagogiques avec, en lien pardon, avec les municipalités. Financement des denrées est assuré par l'éducation nationale au moyen d'une subvention globale versée par la DESDEN dès le début de l'opération, afin d'en faciliter le démarrage. Convention mère, DASEN, coût estimé sur la base préunitaire multipliée par le nombre de petits déjeuners. Le montant moyen a été récemment revalorisé à 1,30€ par petit déjeuner. Ainsi, une école souhaite y participer sur la période du 10 janvier au 31 mars 2022, 2 fois par semaine. C'est l'école maternelle du Château, classe PS pour 25 élèves, soit un total de 10 semaines multipliées par 2 petits déjeuners par 25 élèves, soit 500 petits déjeuners, montant de la subvention, 500 A, avec 1,30€ de subvention égale 650€ de subvention en totalité.
Est-ce qu'il y a des questions ? Donc nous soumettons au vote. Qui s'oppose à cette convention ? Qui s'abstient ? Nous remercions. La délibération suivante, Madame Lyon, à nouveau, qui va vous la présenter.
Alors, signature d'un contrat avec l'Amicale laïque Nangicienne pour l'organisation d'un séjour ski et vacances d'hiver 2022. L'Amicale laïque Nangicienne propose à la ville de Nangy de reconduire le séjour ski durant les vacances d'hiver du 20 au 26 février pour 30 jeunes de 8 à 16 ans. 2022. Ce séjour a lieu depuis de nombreuses années, sauf en 2020 pour raison de situation sanitaire. Pour ce séjour, le groupe est hébergé dans les locaux de l'association composée d'une ancienne école réaménagée, chambre sanitaire, cuisine et grandes pièces de vie, et de 3 autres bâtiments comprenant des dortoirs, un réfectoire avec cuisine équipée. Ces locaux sont situés à Échazeau, sur la commune de Montange, à 3 km du village. Les séances de ski ont lieu sur le domaine de l'Élex-Crozet, commune de l'Élex, à 900-1680 mètres, 21 km de piste, 22 pistes dont 7 vertes, 6 bleues, 7 rouges, 6 rouges et 3 noirs, 10 remontées mécaniques dont 3, 2 télécabines, un télécombi, avion siège et cabine, un télésiège, 5 téléskis, un télécorde, 33 hectares de neige de culture. L'Amicale organise ce séjour comme suit. Départ le samedi matin en bus de Nangy. Ce bus reste durant tout le séjour sur place pour que les transferts à la station de ski et la visite prévue à Annecy durant la semaine puissent se faire. Séance de ski par groupe de niveau. Les encadrants maîtrisent le ski. Le matériel est fourni par l'Amicale. Si nécessaire, il sera loué auprès d'un prestataire de la station. Le coût par enfant est de 590 euros, tout compris, c'est-à-dire transport en car grand tourisme, hébergement, encadrement, activités ski, forfait, etc. Les inscriptions auront lieu dès la mi-décembre et les familles devront s'engager à acquitter le montant dû suivant leur catégorie de caution familiale avant le départ. Les bons vacances CAF et ou les aides des comités d'entreprise seront déduits du montant de la participation des familles. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire. Et vous avez joint en pièce le contrat Nangy Amicale laïque Nangicienne pour le séjour hiver 2022. Est-ce que vous avez des questions?
Au vote, c'est
ça continue.
Pardon ?
C'est très bien que ça continue, ces séjours.
C'est le Covid qui nous a arrêté, rien d'autre.
Oui, hein. C'était pas méchant ce qu'il disait. Hein. Je disais, non, c'est bien, c'est... ça continue.
On espère que la situation le permettra, évidemment.
Et on espère surtout qu'il y aura un nombre d'inscrits suffisant. Parce que les effectifs n'étaient pas forcément, même en 2018-2019. C'est compliqué de remplir les effectifs. Donc, qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, toujours la parole à Madame Lyon.
Séjour vacances hiver, on va pouvoir voir la définition des catégories de quotient familial et de la participation des familles. L'Amicale laïque Nangicienne propose à la ville de Nangy de reconduire le séjour ski durant les vacances d'hiver du 20 au 26 février 2022 pour 30 jeunes de 8 à 16 ans. Le coût par enfant est de 590 euros tout compris. Le transport en car, grand tourisme, hébergement, encadrement, activités ski, forfait, etc. Il est nécessaire de mettre à jour les catégories de quotient familial et de définir les participations des familles en vigueur depuis 2018. Donc depuis 2018, on avait la première tranche, les tranches QF en euros, de 0 à 11 500. Le taux de participation des familles était de 65%. La deuxième tranche, de 11 501 à 14 500 de QF en euros, c'était... Le taux de participation était de 73%. La tranche 3 de 14 501 à 17 500 en QF en euros, taux de participation était de 80%. La quatrième tranche de 17 501 à 20 000 QF en euros, le taux de participation était de 85%. La tranche 5, plus de 20 000 en QF en euros, taux de participation à 95%. Bien sûr, les extérieurs à 100%. Il est défini les nouvelles tranches de QF et nouveaux taux de participation des familles proposées sont: première tranche, tranche de QF en euros, de 0 à 17 500 à taux de participation des familles, on vous propose 60%. La tranche 2, de 17 501 à 20 000 en QF en euros, taux de participation des familles, 70%. 3, 20 000 euros et plus, en QF en euros, taux de participation des familles, 80%. Dans ce contexte, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette affaire.
Merci, Madame Lyon.
Est-ce qu'il y a des questions? Ben non, mais c'est dommage quand même, parce que globalement, la participation des familles, là où elle était à 65%, 73%, 80%, elle baisse à 60%. Vous pourriez vous en réjouir. Là où elle est mise à 85%, elle passe à
70%. S'il y avait des questions, vous ne m'avez pas demandé s'il y avait des observations.
Ah, vous avez raison.
Voilà.
D'accord. Bon, bah, je me fais les observations toute seule, alors.
Oui, il n'y a pas de souci.
Hein, donc, là où Tarif était avec une participation des familles à 85%, il passe à 70%. Là où c'était à 95%, il passe à 80%, c'est-à-dire qu'au maximum, les familles nanchiciennes paieront 80% du tarif. Les extérieurs, évidemment, 100%. Avec une volonté de diminuer le nombre de tranches pour davantage de lisibilité et la volonté également de renforcer la participation sur les classes moyennes qui sont souvent celles qui sont le moins aidées. Et en fonction des inscriptions, nous verrons si notre politique tarifaire aura porté ses fruits et aura ainsi incité les enfants des familles de classe moyenne à participer à ces séjours.
Parce que la tranche 1 avant c'était 383, la tranche 2 c'était 430, la tranche 3 c'était 472, et là avec la modification, la tranche 1 est en cours famille à 354. Avant la tranche 4 c'était 501, et en tranche 2 on arrive à 413, 70%. La tranche 5, on était à 95%, c'était 560. Et sur la tranche 3, 20 000 et plus, on arrive à 462.
Juste pour préciser les pourcentages qui ont été affectés, on ne les a pas fait au hasard, hein. On les a fait selon une demande de service, en leur demandant l'échantillonnage, c'est-à-dire.
Le nombre de familles.
Les personnes présentes, comment ça se passait sur les trois dernières années glissantes. On s'est rendu compte qu'en fonction des volumes, on a adapté les pourcentages pour essayer de mettre effectivement cette mixité.
Et de remplir les séjours. Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Merci. La délibération suivante, je vais donner la parole à Madame Rapaille.
Merci. Approbation d'un avenant de transfert du contrat de gestion des marchés d'approvisionnement communaux. Par délibération 2017-83, en date du 29 mai 2017, la commune de Nangy a confié la gestion du marché forain à la société Giraud et Associés pour une durée de 6 ans à compter du 17 juin 2017. Par courrier reçu en mairie le 20 septembre dernier, la société Giraud et Associés nous informe de sa fusion, absorption par la SAS les fils de Mme Giraud dans les fondateurs et uniques associés sont les mêmes et le demeureront, à savoir les membres des familles Auguste et Giraud. Ces deux sociétés ont un objet social identique, qui est l'affermage des droits de place et de l'exploitation des marchés d'approvisionnement communaux. Cette fusion a pour ambition de simplifier la vie du groupe et aussi de mieux préparer la succession de l'actuelle génération familiale et l'accès de la nouvelle génération au poste de direction. L'exécution des modalités réglementaires et administratives à la fusion requiert l'officialisation par la commune et la signature d'un avenant, conformément à ce que prévoit le traité qui lie actuellement la commune à la société Giraud et associés. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le transfert du contrat ainsi que sur la signature par Madame le maire de l'avenant s'y reportant.
Merci Madame Rappel. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui s'oppose à cette délibération? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération suivante. La parole est encore à Madame Rappel.
Avis sur les demandes de dérogation au repos dominical pour l'année 2022. Par dérogation au principe du repos dominical, l'article L3132-26 du Code du travail, tel que modifié par la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, permet au maire d'accorder une autorisation d'ouverture des commerces de détail le dimanche pour un minimum de 12 dimanches par an par branche d'activité.
Un maximum.
Oui. La liste de ces dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l'année suivante, après avis du conseil municipal. La dérogation d'ouverture peut être accordée uniquement au commerce de détail. Les établissements de commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne peuvent en bénéficier. La demande d'ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, un groupement professionnel où la dérogation s'appliquera à la totalité des établissements qui se livrent dans la commune au même type de commerce. 5 des 12 dimanches relèvent de l'initiative du maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après avis conforme de l'EPCI dont la commune est membre. À défaut d'avis rendu dans les 2 mois, celui-ci est réputé favorable. La dérogation doit également être soumise pour avis aux organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le maire qui reste libre d'accorder sa dérogation. Les anciennes Chausses-Espoo et Carrefour Market de Nangy ont chacune adressé leur demande d'autorisation d'ouverture des dimanches pour l'année 2022. 6 dates sont communes à ces 2 demandes. Toujours dans un souci de préservation de l'activité des commerçants du centre-ville et des conditions de travail des salariés, des anciennes demandeurs, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis sur 7 dimanches. Donc, non, 7. Il y a eu une modification sur table suite à une réunion un mercredi soir avec l'association des commerçants qui vient de se créer, Nangy. La vie dans la ville. Donc, nous allons accorder le dimanche 16 janvier 2022, le dimanche 3 juillet 2022, le dimanche 28 août, le dimanche 4 septembre, le dimanche 27 novembre, le dimanche 4 décembre, le dimanche 11 décembre et le dimanche 18 décembre.
Donc pour compléter l'explication de Madame Rappail, l'ordre du jour vous a été envoyé avant la réunion avec les commerçants qui s'est tenue mercredi soir. Tout l'intérêt d'avoir une association de commerçants, comme c'est expliqué dans la notice, c'est justement de pouvoir les consulter. Donc ils ont été mercredi. Et donc, voilà, nous avions annoncé l'année dernière, il y avait 10 dimanches, Madame Martinez, c'est ça, un 10 l'année dernière, alors qu'il y en avait 12, je crois, qui étaient demandés. Nous en avions proposé 10 et nous avions annoncé l'année dernière que nous passerions à 8. Finalement, il y a 6 dates, qui sont communes aux 2 enseignes qui sollicitent. Nous en avons rajouté une et nous sommes donc à 7 dimanches pour cette année. Oui, Madame Galochi.
Toutefois, nous n'avons pas la délibération sur table. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates que
bien
vous avez
retenues
ici ?
Je vous les redonne. Le 16 janvier, le 3 juillet. Donc, 16 janvier, c'est la première date de solde. Hein. 3 juillet, c'est pareil. Ensuite, 28 août et 4 septembre, les jours de rentrée des classes. Et ensuite, les dimanches à partir du 27 novembre. Donc, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre.
Merci.
2, 4, 6. Ah oui, c'est fini. Oui, on en a rajouté un. On a été. Non, c'est pas 7. C'est pas lui, madame.
Oui,
ça fait 8.
Oui.
On a rajouté ce 4 septembre.
Oui.
Ouais, on est conforme à ce qu'on avait dit l'année dernière,
oui.
On est à 8.
On a rajouté. Ça fait 8, c'est ça?
C'est
oui.
Ça. C'est bon pour tout le monde, les dates? Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci à vous. Le point suivant, délibération 17. Monsieur Lancel.
Délibération 17, c'est une convention d'occupation du domaine public pour une installation d'une infrastructure de téléphonie mobile. Comme vous le savez, on est alerté par plusieurs administrés qui nous indiquent qu'ils ont des problèmes de communication, surtout au sud de la ville. Aujourd'hui, la ville est dotée de trois antennes principales sur la commune, une à la sortie en direction de Melun, une au nord au niveau des silos et une à l'est du côté de la zone industrielle Château d'Eau. En condition, encore une fois, des finances, nous avons été approchés par une entreprise qui fabrique des émetteurs, mais en forme d'arbre. Vous pouvez en voir quelques-uns à la sortie de Longy en direction de Melun, encore une fois, aux alentours de Saint-Ouen, Fontenay. On peut dire Fontenay que Saint-Ouen. Donc ces gens nous ont approchés après une négociation avec eux. Ils s'installeraient, ou ils s'installeront, pardon, selon la convention. Au niveau de la mare blanche pour un montant de redevance annuelle de 6 000 euros. Voilà. Avez-vous des questions sur cette délibération ?
Merci. En commission de finances, monsieur Lancel, vous aviez évoqué le fait qu'elle pouvait être, enfin, que la redevance pouvait être indexée en fin de compte.
Non, je ne l'ai pas. Je pensais qu'elle l'était. Elle ne l'est pas. Donc aujourd'hui, on va voter en l'état et j'ai tenté effectivement de rejoindre la personne. Téléphonique par rapport à la convention qu'elle nous a fournie, je n'ai pas réussi à la joindre. Au moins, croyez bien que je vais faire le maximum pour que ce soit indexé.
Qui s'oppose à cette délibération ? Qui s'abstient ? Merci. Le point suivant concerne l'approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du centre de gestion de Seine-et-Marne. Monsieur Ansel.
À nouveau, donc là, c'est une convention qui est prise depuis un certain nombre d'années par la collectivité. Le centre de gestion est une instance en Seine-et-Marne qui permet d'avoir des aides pour aider nos services, particulièrement dans les ressources humaines. Donc on avait décidé d'adhérer en 2021 aux prestations ressources humaines proposées par le centre de gestion de Seine-et-Marne en matière de conseil statutaire sur la carrière du fonctionnaire, expertise en hygiène et sécurité, maîtrise du handicap et de l'inaptitude physique, conseil et études ergonomiques, en plus un maintien dans l'emploi. C'est dans un but de confort, je vais parler de confort, mais d'amélioration pour les agents. Au titre de l'année 2022, comme vous avez pu voir dans la convention, on est sur les missions suivantes qui sont proposées, les visites d'inspection, l'accompagnement à l'élaboration du document unique, les actions en milieu du travail, l'analyse des accidents du travail, la participation au CHSCT, diagnostic RPS, ainsi que, enfin, études académiques, groupe de parole, médiation, formation thématique, mise au cours, gestes et postures, signalisation temporaire de chantier, produits chimiques, RPS, CHSCT, travail sur écran. On a un nombre de deux jours qui est attribué en fonction de l'effectif pour chaque collectivité. On est plutôt dans la tranche 4 jours par an. Vous avez en page 2 30 heures supplémentaires qui s'élèvent à 54,50 euros si on les sollicite en dehors de ce qui est préalablement prévu. Concernant les prestations RH pour le tarif de minimum au CDG, c'est l'étude et l'instruction d'une demande de droit à l'allocation retour à l'emploi, réoccurrence d'indemnisation, rechargement des droits, droits et options pour 204 euros, au CDG option 2, c'est la note juridique pour l'application, sous la réorientation au chômage de 112 euros, option 3, l'actualisation du montant de l'allocation en vertu du cadre réglementaire, édition d'un dossier déjà instruit pour 21 euros. Les prestations ateliers au statut, forfait par participant, au CDG, ou intra mutualisé ou intra collectivité. Les prix évoluent en fonction de la géographie, si c'est sur place ou en interne. Ça va de 133 euros à 1632 euros, pardon, dans le cadre d'une session pédagogique, une journée pour 12 participants. Les prestations examen du dossier individuel de l'UNI, le taux d'intervention c'est pour 50 euros. Les prestations d'atelier formation retraite, c'est par participant, c'est un forfait. Pareil que précédemment, on est sur des montants qui oscillent entre 72 euros et 184 euros en fonction de si c'est au centre de gestion ou en intramuros. L'étude ergonomique, c'est typiquement lié aux postures des agents sur le lieu de travail afin d'améliorer leurs conditions. Ça, c'est quelque chose que nous avons déjà fait puisque nous avons mis à disposition de beaucoup d'agents qui étaient en difficulté avec du matériel vétuste, un ensemble de bureaux ergonomiques ainsi que des fauteuils. Ce qui est d'ailleurs encore en train d'être changé. Et là-dessus, on a un budget assez important, comme la formation de Mme Lagré. L'étude ergonomique, donc, pour ce poste, c'est non facturé à la collectivité. Ça fait l'objet d'une prise en charge en cadre de la convention qui a été réalisée entre 2020 et 2022, portée aussi par la précédente municipalité. Nous avons quelques dossiers complexes, comme c'est indiqué. Ils sont soumis au centre de gestion et dans ces cas-là, on analyse avec eux en fonction de la complexité de chacun. On vous demande donc de valider ce besoin et je me tourne vers vous si vous avez des questions. Pas de questions ? Je peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Qui est pour ? Mieux, c'est bon. Je vous remercie. Point 18, le dernier point pour 19 ans. Dernier point pour ce soir, une création de poste, mais qui sera suivie d'une suppression. Au prochain conseil, par délibération en janvier 2021, nous avons un poste d'adjoint technique à temps non complet à raison de 21,85e, qui avait été créé pour l'entretien des plages et des bassins du centre aquatique. Aujourd'hui, après révision des besoins et réaffectation, il s'avère que ce poste n'est pas pourvu à hauteur des 0,80. Donc, on recrée un poste pour simplement 21,35e pour ajuster correctement le 30e nécessaire pour réaliser la tâche. Avez-vous des questions ? Je peux mettre au vote. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Oui, oui, mais c'est pas le sujet là. Non, vous voulez de retour ? Non, c'est bon.
Il y a deux créations.
Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie.
Nous en avons donc terminé avec les délibérations. Nous avons reçu quatre questions diverses. Donc la première question concerne la réhabilitation de l'hôtel du Dauphin. Madame le maire, le constructeur Monlogy a confirmé le démarrage des travaux de réhabilitation de l'ancien hôtel du Dauphin en juin 2020. Ils avaient été retardés par la période de confinement. Les travaux de désamiantage des planchers du bâtiment ont bien eu lieu. Une fois le chantier débarrassé de l'amiante et mis à nu des gravats, les gros travaux de réhabilitation devaient commencer pour 16 mois de chantier, avec une livraison au premier trimestre 2022. 26 petits logements locatifs devaient être construits, la façade rue du Dauphin, l'entrée rue Aristide Briand avec sa grille, et là les pavés devaient être conservés. Une petite faute d'orthographe. 26 places de stationnement étaient évidemment prévues au permis de construire, 15 dans la cour intérieure, 6 dans le bâtiment 2 et 5 dans le bâtiment 3. Au mois de juin 2020, vous aviez indiqué à vos électeurs que le panneau avait été mis en place. Aujourd'hui, le chantier semble être à l'arrêt. Maintenant que vous êtes aux affaires et que ce dossier a dû avancer, pourriez-vous donc nous faire un point de cette réhabilitation? Alors, pour mémoire, l'hôtel du Dauphin a été préempté par l'équipe précédente le 2 septembre 2003. Si la ville l'avait préempté à l'époque, c'est donc qu'elle avait un projet. Je regrette que M. Billoux ne soit pas là ce soir afin qu'il nous explique quel était son projet à l'époque en 2003. Madame Galouchi, peut-être pouvez-vous nous éclairer?
Oui, tout à fait. En fait, à l'époque, lorsque l'hôtel du Dauphin a été mis en vente, la commune a fait effectivement le droit d'usage de son droit de préemption Dauphin, dans le but de pouvoir le rétrocéder, ce qui a été fait d'ailleurs dans les mois qui ont suivi, à l'OPH d'HLM pour un programme justement de réhabilitation, petit logement également, petit logement sociaux. Voilà.
Et ensuite, pourquoi à l'époque ça ne s'était pas fait?
L'OPH n'a pas pu donner suite à son projet parce que ça lui coûtait certainement trop cher au niveau de la réhabilitation à l'époque, puisqu'il y avait des normes très très précises et très restrictives à respecter au niveau du bâtiment, des bâtiments de France, hein, au niveau du secteur est classé dans le plan des bâtiments de France, tout à fait. Et donc à l'époque, l'OPH n'a pas pu donner suite à son projet. Il a donc été revendu, il a été revendu à d'autres promoteurs qui lui-même n'a pas pu donner suite, et je pense qu'il y a eu 2 ou 3 autres mutations entre-temps, hein, très certainement.
Donc le dernier bailleur avait déposé un permis de construire, validé en 2016, et pour autant rien ne s'est fait, donc jusqu'en 2020, vous le faites remarquer. Effectivement, on avait tous remarqué qu'un panneau était revenu sur la façade du Dauphin au mois de juin 2020. Les travaux de démolition, effectivement, ont été effectués par les entreprises mandatées par le bailleur, donc Mon-Logis. Les travaux de désamiantage ont donc été réalisés, et puis se sont arrêtés. Que nous avons constaté, nous nous en sommes inquiétés. On nous a dit il faut que les poussières d'amiante retombent un peu. On reprendra le chantier 3 mois plus tard. Sauf que le chantier ne reprenant pas, nous avons sollicité à nouveau Mon-Logis, qui en fait nous a fait part de sa volonté de ne pas poursuivre l'opération. Puisque le bâtiment, vous imaginez bien, entre 2003 et 2020, était dans un état encore plus dégradé. La tempête de grêle de 2007, avec des dégradations importantes sur la toiture du bâtiment, sans que des réparations n'aient été faites derrière, a abîmé également la structure du bâtiment. Et donc nous sommes en contact régulier, hein, avec le Mon-Logis, qui est toujours propriétaire du bâtiment. Mais qui ne souhaite pas poursuivre son opération de réhabilitation pour des raisons de coût trop importantes. Voilà.
Oui. Par exemple, ça peut faire l'objet des montants indiqués tout à l'heure. On pourrait être amené, vu que vous l'avez présenté pour la somme de 256 000 euros à l'époque, pour un bâtiment qui était propre encore. Certes, c'était il y a 2003, 18 ans que vous aviez présenté. C'est un peu dommage que ça n'ait pas vu le jour. Vous pouvez être amené à se dire que si on arrive à bien négocier.
C'est pas que ça n'a pas vu le jour, en fait, on a rétrocédé et ensuite.
Tout à fait, c'était une opération.
Quand on achète quelque chose.
Non, c'était une opération.
C'est une opération
blanche. C'était vraiment dans le but de rétrocéder tout de suite à
l'intérêt général. C'est pas une opération d'intérêt général. Votre volonté, je ne doute pas, sauf qu'aujourd'hui, le résultat, vous le voyez, tout le monde le voit. À l'époque, on avait un entrepreneur, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu entendre, qui était prêt à faire les travaux. Il a été présenté, aujourd'hui on a simplement une verrue en centre-ville. Verrue que nous devons bien sûr remettre en état, qu'il faudra peut-être racheter.
Vous comptez le racheter?
Écoutez,
on a préempté,
pour le moment c'est pas mis en vente.
Ça, bien.
Donc on ne va pas faire une déclaration non plus, on ne va pas aller chercher les coûts. Si d'aventure ils voulaient nous le vendre au prix que vous l'avez cédé à l'époque, on pourrait réfléchir, effectivement. Ouais, aujourd'hui, les prix qu'ils proposent sont beaucoup, beaucoup plus élevés.
Oui. Peut-être
pour la compréhension de tout le monde, quand la ville a préempté, ça veut bien dire qu'il y avait un acheteur crédible et prêt à signer chez le notaire. Et là, la ville, à l'époque, donc en 2003, a fait le choix de préempter, certainement parce que le projet porté par, le projet porté par l'entrepreneur ne correspondait pas aux objectifs de la commune, qui préférait préempter pour céder ensuite l'immeuble à un bailleur social dans le but de faire du logement social. Le résultat, il est que 18 ans plus tard, le bâtiment est toujours au même endroit, dans un état évidemment beaucoup plus dégradé. Aujourd'hui, il n'est pas question de préempter parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'acheteur pour une ruine. Ou en tout cas, le prix auquel serait prêt à céder le bailleur est trop important pour intéresser un éventuel acheteur. Puisqu'il y a quand même des travaux de désamiantage, et vous le savez, les travaux de désamiantage, c'est très coûteux, qui ont été faits par le bailleur. Voilà.
Donc un futur achat de la municipalité.
On essaye de trouver des solutions, Madame Lagoutte.
Je ne sais pas, c'est une question que je vous pose.
En tout cas, effectivement, c'est inconcevable pour nous de laisser un tel bâtiment dans cet état-là, en plein cœur du centre-ville de Nancy. Donc vous avez essayé pendant 17 ans de trouver des solutions. Ça fait 18 mois qu'on est en affaire.
Non, on n'a pas essayé de trouver pendant 17 ans des solutions.
Ouais. Bah, c'est pire encore, je veux dire que vous n'avez rien fait pendant 17 ans.
Non,
ça
part du tout. C'est une propriété privée, bien entendu. Il y a eu des tas de promoteurs là-dessus qui ont acheté successivement. Une fois que nous, on a rétrocédé, à l'époque, une fois que la municipalité
de l'époque avait rétrocédé, c'est ça, Madame Galoché.
Nous, on a rétrocédé à l'époque.
On empêche un projet parce que c'est un privé, et derrière, on s'en lave les mains.
Mais bien sûr que non. Alors dans ce cas-là, dans ce cas-là, que faites-vous de l'immeuble qui est en face du centre du stade et des installations sportives?
Madame c'est exactement Galoché, pareil. À ma connaissance, ça appartient.
Si, c'est exactement pareil. C'est
non,
un privé.
Non, madame.
Bien sûr.
Ah non, madame.
Pardon.
Il y a une différence très importante.
Okay.
À ma connaissance, l'immeuble qui est à l'emplacement des anciens Car Barbier, comme ça, ça situera pour tous les anciens Angiciens. Mmh. Il n'y a jamais eu d'intervention publique. Il n'y a pas eu de préemption. La différence sur l'immeuble du Dauphin. La différence, c'est que l'immeuble du Dauphin, il y avait un acheteur qui était prêt à réhabiliter l'immeuble. Et la vente a été cassée parce que la mairie de Nancy de l'époque a fait le choix de préempter parce que le projet locatif, le projet de logement de ce propriétaire, de ce futur potentiel propriétaire ne correspondait pas à la volonté politique de la municipalité qui préférait voir du logement social dans l'immeuble du Dauphin plutôt qu'un immeuble géré par un propriétaire privé.
La conséquence, c'est un logement social.
La conséquence,
pas mal,
Madame Lagoutte,
on a l'impression que les gens qui vivent dans les logements sociaux.
Madame Lagoutte, je suis simplement factuelle. Vous avez cassé une vente pour préempter
déjà,
un bâtiment. Vous avez préempté un bâtiment. L'acheteur qui s'était positionné pour acheter, réhabiliter le bâtiment, n'a donc pas pu le faire. Vous portiez un projet d'intérêt général dont on voit le résultat aujourd'hui. C'est tout. Il n'y a aucun jugement de valeur, je suis simplement factuelle, c'est tout.
Mais qui vous dit, Madame Le Maire, qu'à l'époque, le propriétaire d'origine aurait pu également suivre son projet? On en sait absolument.
Ça va être
excessivement cher.
Ce qu'on sait,
cette réhabilitation, même déjà à l'époque, devait coûter excessivement cher, puisque l'OPH n'a pas pu suivre. On est en plein, encore une fois, secteur des monuments historiques, et ça, il y a des tas de travaux, et il y a des tas de normes à respecter qui coûtent très cher.
Aujourd'hui, 17 ans après, le bâtiment s'est considérablement dégradé, et c'est encore plus difficile.
On se doute bien, madame. On se doute bien. À l'époque, de toute façon, c'était vraiment pour, effectivement, du bail social, hein, du bailleur social. Mais encore une fois, c'était pour faire face à des demandes bien précises de personnes âgées dans le centre-ville et également, éventuellement, d'étudiants.
Est-ce que vous aviez l'intention de mettre
une
université à
Angers ? Absolument pas, mais il y avait de toute façon des demandes de jeunes et de personnes âgées qui ne seraient que...
Des jeunes, pas étudiants,
alors pas des départements en ville, hein, ou des personnes qui habitent dans les petites communes avoisinantes et qui voulaient se rapprocher du centre-ville.
Oui, ça fait partie des panneaux qui étaient posés sur la façade avec une résidence senior, je me souviens.
Donc ça, c'est après. C'était en 2008 avec M. Delanne, la résidence senior. Déjà à l'époque, les élus 2008, je me souviens bien, avaient effectivement envisagé de faire non pas une résidence étudiante, mais également une résidence jeune, hein, ou une résidence senior.
Entre 2003 et 2020, ça fait 17 ans. Donc ce que je vous propose,
c'est en 2008.
17 ans, et on a dit on aura eu largement le temps de faire un autre projet. Question suivante au sujet de la ligne 47. Madame le maire, vous n'êtes pas sans savoir que depuis plusieurs mois, la ligne de bus 47 subit de graves dysfonctionnements.
Vous savez, plusieurs bus... poser les questions. C'est nous qui les posons, en général, on prend la parole.
Bah, écoutez, je vous laisserai la suivante. Plusieurs bus sont supprimés chaque jour entre Melun et Forain avec des informations tardives, rendant la vie quotidienne très difficile pour de nombreux salariés, lycéens et étudiants de Nancy comme des autres communes desservies. Pouvez-vous nous dire si vous êtes intervenu auprès d'Île-de-France Mobilité et si c'est le cas, quelle réponse vous a été apportée ? Savez-vous également quelle démarche a engagé le conseil départemental qui cofinance cette ligne Seine-et-Marne Express ? Alors, pour la clarté du sujet pour tout le monde, cette ligne Seine-et-Marne Express numéro 47, elle est exploitée par la société Procar. Évidemment, nous sommes en lien avec Île-de-France Mobilité, avec Frédéric Jouy, le patron de Procar, et particulièrement également avec le vice-président du département en charge des transports, Brice Rabast. La problématique de cette ligne, c'est l'absence de chauffeurs. Procar cherche à recruter entre 15 et 20 chauffeurs de bus. Procar n'arrive pas à recruter. Les travaux d'électrification de la ligne ont conduit à la suppression de certains trains qui ont été remplacés par des bus. Donc, d'un côté, le besoin augmente, le besoin de bus, hein, tout simplement. De l'autre, des chauffeurs qu'on n'arrive pas à recruter. Donc, malgré une augmentation de salaire de 30%, me dit M. Ancel. Donc, le fait est que, voilà, si vous avez parmi vous des gens qui sont sans emploi et qui cherchent à être formés, je le répète, il y a entre 15 et 20 postes disponibles à la société Procar de chauffeurs de bus. Alors, je vais quand même en profiter pour rappeler que ce besoin lié à l'électrification, on ne peut pas s'en plaindre non plus, parce que les travaux d'électrification avancent enfin. Je le rappelle aussi, grâce aux budgets qui ont été mis sur la table par le département de Seine-et-Marne et par la région Île-de-France, la région qui a mis une fois 35 millions et qui a ensuite avancé les 40 millions que l'État ne pouvait pas mettre. Donc voilà, ça c'est parce que Île-de-France Mobilité présidait la région. Voilà. C'est important de le dire.
C'est
important
de le dire. Les élus se battent depuis longtemps.
Les élus se battent depuis longtemps. Le projet va
noir. Il y a quand même beaucoup d'élus qui se sont mobilisés les 15 dernières années. Quoi.
Donc évidemment, alors là, il y a déjà des bus qui sont supprimés, des trains qui sont remis, je crois, à partir de début janvier. Donc forcément, s'il y a moins besoin de bus de substitution sur la ligne SNCF, on peut espérer que les choses iront mieux sur la ligne 47. Mais oui, évidemment, on partage l'inquiétude des parents au sujet des enfants qui doivent aller au lycée à Provins, avec vraiment des anomalies très lourdes, enfin, des bus qui ne passent pas du tout, des bus qu'on attend sans savoir s'ils vont arriver ou pas. On est bien conscient des difficultés, mais malheureusement, sans chauffeur, il est impossible de faire rouler des bus.
On a aussi quelques usagers qui nous ont dit qu'ils avaient beaucoup de mal à répondre à Procar et quelquefois ça ne répond même pas chez Procar.
prennent plus les appels, mais d'autres les appels.
Je ne sais pas si vous avez eu des retours dans ce sens-là, mais il paraît que c'est compliqué.
Mais c'est effectivement compliqué pour eux de faire les plannings avec, avec des chauffeurs français.
Madame Gallois acquiesçait tout à l'heure, donc Procar forme leur...
Oui, 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 ils sont prêts à former, tout à fait.
Oui, oui, pas toujours
formé. Oui, c'est pour ça que je me permets de répondre. Oui. Bah écoutez, on va communiquer.
N'hésitez pas à le faire, oui. Mais c'est pas nouveau hein, chez Procar. Enfin, c'est... Je me souviens déjà, on avait partagé des publications sur le site de la ville, me semble-t-il.
Ils ont d'autres missions annexes, là ça part.
Non, puis il suffit qu'ils essayent de faire les plannings, mais forcément c'est tendu. Et il suffit qu'il y ait un arrêt maladie, le moindre grain de sable dans l'engrenage bloque toute la machine. Madame Lagoutte, je vous laisse poser la troisième question. Je n'entends pas Monsieur Chiquet. Est-ce que vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît ?
Oui, Madame Le Maire, il y avait une seconde question. Le conseil départemental co-finance cette ligne, le Seine-Marne avec Express.
Oui.
Savez-vous si elle a entrepris des démarches ou pas ?
Je vous ai parlé de M. Rabaste, le vice-président du département en charge des transports.
Oui. Très bien, mais qu'est-ce que fait le conseil départemental ? Vous parlez du président, oui, qu'est-ce qu'ils ont entrepris comme démarche ?
Je ne comprends pas votre question.
Vous avez parlé des vôtres, mais est-ce que le département a...
Ben évidemment. Mais je vous rappelle, la problématique, c'est le manque de chauffeurs. Donc à un moment donné, peu importe l'interlocuteur, qu'il s'agisse d'Île-de-France Mobilité, qu'il s'agisse du département, la difficulté pour l'entreprise, c'est de trouver des chauffeurs. Et je ne sais pas à quoi vous pensez, mais... Ce ne serait pas en mettant des amendes ou des choses comme ça, ce n'est pas ça qui va aider une entreprise. Au contraire, Procar, c'est une entreprise du territoire. Il y a un dépôt, enfin voilà. L'entreprise est en difficulté. La meilleure manière d'améliorer les choses pour les usagers de la ligne comme pour l'entreprise, c'est effectivement de diffuser au maximum ce besoin et d'orienter, d'inciter des gens. Des jeunes ou pas d'ailleurs, ou des gens en reconversion ou n'importe quoi. Je me souviens d'ailleurs l'avoir fait, ça doit remonter à 2 ans maintenant, quelqu'un qui était en reconversion professionnelle suite à une inaptitude dans une entreprise de Nancy d'ailleurs, à la sucrerie pour ne pas la nommer. Et donc qui était perdu, arrivé à 50 ans et se dire je ne peux plus faire le métier que je fais depuis que j'ai 18 ans. Et donc nous étions intervenus auprès de Procar pour faire passer tout simplement son CV. Et il a été formé par l'entreprise, il travaille dans l'entreprise et il est ravi. Donc voilà, n'hésitons pas les uns les autres à diffuser ces informations et à inciter les gens qui seraient sans emploi, en recherche d'emploi ou dans une volonté de reconversion de se tourner vers l'entreprise Procar. Voilà. Madame
Lagoutte. Vous
vouliez
proposer laquelle
comme vous voulez, peu importe. Hein.
On va commencer par le droit de préemption.
C'est la dernière.
Alors, par délibération numéro 12 du 30 septembre 2021, le Conseil municipal a décidé d'instaurer à l'intérieur du périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité approuvé au préalable un droit de préemption sur les fonds artisanaux et de commerce, beaux commerciaux et de terrain portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente entre 300 et 1000 m². Pouvez-vous nous dire si les formalités de publicité prescrites par l'article R211.2 à R211.4 du Code de l'urbanisme sont terminées ? Si oui, nous donner le détail de celles-ci et nous indiquer par ailleurs si des cessions de fonds ou de pas de porte ont déjà été portées à votre connaissance. Dans la mesure où l'exercice du droit de préemption doit être motivé par l'intérêt général, mettez-vous en place des critères de sélection, voire un cahier des charges précis et motivé. Et enfin, comptez-vous prévoir une ligne budgétaire précise destinée à ce genre de financement ? Merci.
Alors, les formalités de publicité, donc elles ont commencées, elles sont en cours. L'affichage de la délibération, le compte-rendu affiché dans le recueil des actes administratifs, par exemple, ça en fait partie. Pour le reste, ça va être fait prochainement, l'insertion dans les deux journaux diffusés dans le département. Et une information au notaire également a été faite. Ensuite, vous nous demandez si des cessions de fonds ou de pas de porte ont déjà été portées à notre connaissance. Ça n'est pas le cas. Pour ce qui est de la mise en place de critères de sélection, comme il avait été indiqué dans la note de synthèse de la délibération, l'objectif principal est surtout d'initier un système de veille, d'observation, d'information et de suivi des cessions commerciales. Il ne s'agit pas nécessairement pour la commune de se porter acquéreur de tous les fonds de commerce en vente. L'exercice de la préemption doit conserver un caractère exceptionnel. Le cahier des charges dont vous faites mention n'est pas un préalable à la mise en œuvre de ce droit de préemption, mais à la rétrocession du fonds après son acquisition dans le cadre d'un appel à candidature. Donc ce cahier des charges ne sera établi que lorsque la préemption d'un fonds de commerce sera réalisée. Il ne peut être établi avant, puisque la préemption conserve un caractère exceptionnel et que chaque cas, évidemment, sera différent. Et ce cahier des charges de rétrocession devra de toute façon être approuvé en conseil municipal. Dernier item de votre question, comptez-vous prévoir une ligne budgétaire précise destinée à ce genre de financement ? La réponse est oui.
Merci de votre réponse.
Madame la maire,
excusez-moi.
Nous sommes très inquiets par le climat que vous faites régner au service technique, notamment par la dégradation des conditions de travail que vous faites subir aux agents dans différents secteurs. Votre volonté de supprimer les emplois a déjà atteint ses limites depuis plusieurs mois. Et vous continuez dans cette voie. Pardon, il y a une faute d'orthographe. Par exemple, nous avons appris que vous refusiez de recruter un nouveau responsable du garage municipal, poste stratégique à bien des égards. En conséquence, vous tentez de confier cette mission à des agents en place sur d'autres tâches, mais s'ils n'en ont pas les compétences et surtout même s'ils ne le désirent pas. Des pressions auraient été même exercées à leur égard. Le résultat de votre politique est donc un fort mécontentement chez les agents, ce qui est très compréhensible, ainsi qu'un long record d'arrêt de maladie, tant la souffrance est forte. Madame la maire, quand donc allez-vous comprendre que la qualité du service public tient à la qualité professionnelle des agents, mais également à un nombre suffisant de personnel pour pouvoir accomplir dans des conditions correctes les tâches qui sont souvent très pénibles? Quand donc allez-vous cesser de supprimer les emplois publics?
Alors, ma première réponse va être une interrogation que je vous retourne. Vous parlez d'un nombre record d'arrêts de maladie. J'aimerais connaître vos sources, puisqu'effectivement, nous avons nous-mêmes demandé à nos services de faire un bilan sur les arrêts maladie, en excluant évidemment les arrêts Covid, cas contact, etc. Or, ce chiffre, nous-mêmes, nous ne l'avons pas encore, et il doit être étudié en comité technique, c'est quand c'est mercredi.
Oui. Oui, il est en cours de compilation par le service des RH. Oui.
Voilà. Donc nous-mêmes n'en avons pas connaissance. Alors si vous avez des informations plus précises, si vous aviez des statistiques, nous sommes preneurs, Madame Lagoutte. Donc, sur quoi vous basez-vous pour vos affirmations ? Pardon ?
Je n'ai pas de statistiques et je vous donnerai...
Vous n'avez pas de statistiques. Donc, vous parlez d'un nombre record d'arrêts de maladie. Oui. Et ça n'est qu'une phrase. D'accord. Et qui ne s'appuie sur aucun chiffre. Pour le reste, Monsieur Lancel a assisté à tous les entretiens qui ont été menés au service technique avec le directeur, avec Mathieu Entier et avec la DRH. Donc, je vais laisser Monsieur Lancel compléter la réponse.
Merci.
Merci, madame. Bon, je vais prendre
texte, parce que voilà, nous sommes très inquiets du climat qui fait rien de service technique, de travail, conditions de travail. Oui, je vais essayer de faire, je vais articuler. Dégradation de travail, aujourd'hui, on essaye de mettre en place un système avec le nouveau directeur des services techniques qui convienne à tout le monde. Je n'ai pas aujourd'hui, au niveau des agents, une masse importante d'agents qui est contre ce qu'on leur demande de faire. Donc pour moi, c'est un petit peu, pour moi, c'est la supposition. Supprimer des emplois a déjà atteint ses limites. Alors j'aimerais qu'on me dise aux services techniques ce qu'on a supprimé comme emploi. Vous avez pris un fusil recrutement. Voilà. Ah non, attends, je lis. Par exemple, nous avons appris que vous refusiez de recruter un nouveau responsable du garage municipal. Alors là, je souris. Parce que le dernier organigramme, qui date de février 2020, sauf erreur, nous avons pas affaire, il n'y avait déjà plus de personnes au garage. Vous avez revalorisé un agent polyvalent pour qu'il prenne les tâches. Donc vous voudriez qu'on recrute quelqu'un, qui a été supprimé par vous. C'est ça que je comprends. Oui ? Non ?
Allô ? Non, je vous... Alors, je vous prie, de, s'il vous plaît, d'éviter ce genre de commentaires. Oui, franchement, c'est pas digne.
Madame Lagoutte, je vous écoute.
Le conseil communautaire...
Monsieur Lancel, là, on vous demande si vous allez recruter pour la perte. Il y avait une personne qui s'occupait du garage, qui n'est plus là.
Que vous avez... Non. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que les choix politiques qui avaient été menés par vous précédemment avaient supprimé.
Il y avait dans ses missions de s'occuper du garage.
Non, il n'avait plus ses missions.
Alors qui s'en occupait ?
Ben, la personne que vous avez revalorisée pour pouvoir faire les menus travaux. Parce qu'en face de l'absence de garage, il y a deux axes. Il y a les axes véhicules et les axes entretien, tondeuse, souffleur, ben, tous ces appareils-là. Pour les véhicules, ça part en concession, à l'exception des menus entretien, comme le frein particulier. Ça, c'est un agent qui l'assure. Et c'est valable aussi pour la tondeuse. Ça part chez un établissement...
De frein particulier.
Pour frère. Le frein particulier.
Ils font juste le niveau, la pression.
Tu veux prendre ma place? Donc en fait, ils font la partie. L'agent fait juste la partie comme le frein particulier, effectivement. Et c'est aussi valable pour tout ce qui va être pour les appareils type tondeuse. Ça va chez un prestataire. Et ça, c'est quelque chose qui était en place avant. Donc après, je vous termine la lecture. Des pressions sur d'autres tâches sans avoir compétence, surtout même s'ils ne le désirent pas. Alors, là je suis un peu embêté, on a des agents, on leur demande de faire des missions. On ne force personne à ne pas faire, on le propose. Maintenant, quand l'agent acquiesce à la mission qui lui est proposée, et que derrière il n'est pas forcément content parce qu'il apprend qu'un autre a eu peut-être un peu moins ou un peu plus, on ne peut pas se plier à tout. Il y a une manière de servir, et c'est comme ça que prend la fonction publique. Ils ont une mission, ils ont des fiches de poste qu'ils ont signées, et tant que ça rentre dans les fiches de poste, il me semble qu'ils doivent les exécuter. Et aujourd'hui, on en est là. Résultat de votre politique, ils ont un fort mécontentement. Ils sont mécontents, totalement désolés. Voilà, combien sont mécontents, je ne sais pas. Combien on a d'arrêts de travail, vous avez des statistiques meilleures que les nôtres. Alors là, je suis très surpris parce qu'on n'a pas encore compilé les informations de service RH. Là, je suis un petit peu inquiet, ça veut dire que vous avez des chiffres avant nous. Bon, j'interrogerai la directrice, ça serait heureux de la prendre demain. Record d'arrêt maladie, alors nous pourrons mettre en lumière peut-être lors du prochain conseil municipal si vous avez tort ou si vous avez raison par rapport au nombre d'arrêts maladie. Quand allez-vous comprendre que la qualité du service public, c'est avant tout le service rendu, vous avez raison sur ce point. Sauf que nous, on essaye de faire mieux avec peut-être un peu moins, mais tout en revalorisant les agents. Tant au niveau de leurs augmentations, parce que je rappellerai quand même qu'il y a eu beaucoup d'agents qui ont été augmentés, et nous mettrons en place le CIA après différentes concertations, CIA qui est la prime titulaire pour les activités dans le cadre de leur façon de servir.
Oui, dit au mérite pour vous, mais elle peut englober d'autres choses que le mérite.
Ah, écoutez, nous, c'est l'orientation qu'on lui donne.
On fait c'est pas votre orientation.
Voilà, on ne fait pas de distinguo sur différentes choses. Quand un agent fait un très bon travail, il est normal qu'il ait quelques gratifications par rapport à une manière de servir classique.
Merci pour ces explications.
C'était la dernière question.
C'est la dernière.
C'est ça. Eh bien, ce conseil municipal est donc clos. Pour votre information, nous avions prévu les vœux du maire à la population le vendredi 21 janvier, sous réserve de l'évolution de la situation sanitaire. Voilà.
Le prochain conseil municipal.
Le prochain, c'est pas ça. Oui. Prochain conseil municipal, a priori le 3 février. Donc d'ici là, nous vous souhaitons une bonne soirée. Pardon, madame Lagoute.
On a assez à
vous. Oui, mais tout le monde ne sera pas là. C'est quand même un détective de réduit.
Je vous aussi jeudi soir.
On se voit, bien sûr. Donc, à ceux que nous ne revoyons pas demain, jeudi, bonne fête à tous.